Bon, ben, merci beaucoup d'être venu. Donc le titre, on vous l'a déjà dit, c'est Architecture et complexité, un modèle systémique du processus de conception qui vise l'architecture. Alors la thèse interroge le domaine de la conception en architecture, et c'est spécifiquement ça qu'elle interroge. Notre motivation pour mener cette recherche vient d'abord de notre pratique de l'enseignement du projet d'architecture, mais surtout, principalement, d'un constat important, l'absence de modèle théorique dédié spécifiquement au champ de la conception en architecture, à la fois solide pour répondre aux exigences scientifiques et à la fois suffisamment souple pour être adaptable à n'importe quel projet d'architecture. Alors, dans ces conditions, il y a une série de questions qui se posent. Comment enseigner ce qu'est un projet d'architecture sans avoir de modèle théorique de référence? Comment définir et dispenser des connaissances qui permettraient d'en concevoir un? Qu'est-ce qu'un processus de conception en architecture? Quelle méthode scientifique utiliser pour en modéliser un? Comment faire pour que cette modélisation puisse être validée justement scientifiquement et s'applique à tous les projets d'architecture rencontrés? Alors la thèse que nous défendons a pour finalité justement l'élaboration d'un modèle, à la fois analytique et systémique, du processus de conception, et ce modèle devra répondre à toutes ces questions. En tout cas, il va tenter. Alors pour situer un peu plus le propos de ce soir, trois autres questions. Qu'est-ce qu'un processus de conception architecturale ici, dans ce texte-ci? Quel est le point de départ pour en modéliser un? Et quelle est la méthode utilisée pour le modéliser? Alors, un processus de conception architecturale dans ce cas-ci, c'est considéré comme un processus embrayé par un concepteur qui mobilise un domaine de connaissances, donc l'architecture au sens large, qu'il vise, en opérant sur un analogon du projet d'architecture, donc le modèle architectural, donc c'est-à-dire une image mentale du projet qu'il est en train de concevoir, pour construire des édifices, les architectures. Et le concepteur suit pour cela une métafinalité projective, donc ce n'est pas un finalisme, c'est simplement quelque chose qui le pousse à concevoir, et c'est l'idée de fabriquer des lieux. C'est dans ce contexte-là que les choses ont été entamées. Alors, quel est le point de départ pour modéliser? Le point de départ, c'est de trouver une complémentarité entre la méthode analytique et la pensée systémique. Pour dépasser une opposition régulière entre l'influence que l'on pourrait dire des ingénieurs, qui pensent que le processus de conception d'un projet d'architecture, c'est quelque chose qui peut être totalement intelligible, et d'un autre côté, ce qu'on pourrait appeler les artistes, qui considèrent plutôt le processus de conception comme un acte créatif impossible à percer. Alors, quelle méthode utiliser pour modéliser un processus de conception d'architecture? La méthode utilisée ici, c'est la systémographie. C'est une méthode de modélisation graphique, et c'est la visée descriptive menée à partir des outils issus de la théorie des systèmes. Comme ça, ça met un petit peu en place où on se situe au départ. Alors ça, c'est le plan du texte, de la thèse, et c'est en même temps le plan de l'exposé de ce soir. Vous voyez que le texte est structuré en trois grandes parties. La première partie, donc la question, la posture et la méthode de recherche, ça vous donne les prérequis pour pouvoir entamer les deux autres parties. Dans la seconde partie, on parle de l'observateur, du processus et du système observé. Pourquoi? Parce qu'en approche systémique, on considère généralement à la fois le phénomène observé et l'observateur de ce phénomène, ainsi que les relations entre les deux. Dans ce cas-ci, dans cette partie-là, on commence donc par un historique critique des théories de la conception architecturale, essentiellement après les années 1960. C'est une sorte d'état de l'art des différentes théories qui existent. Et ensuite, on passe à deux modélisations, modélisation 1 et 2. La première concerne le processus de conception en général, et la deuxième concerne le concepteur. Donc la première, c'est le système observé, et la seconde, c'est l'observateur du système. Ensuite, on passe à une troisième partie, dans laquelle on a une troisième modélisation. Donc cette fois-ci, c'est plus le modèle du processus en général, mais celle du processus en particulier, donc un point particulier de ce processus général. On a une série de quatre chapitres qui détaillent quatre modules. Ces quatre modules entrent dans la composition du modèle de cette modélisation 3. Et enfin, on a un chapitre qui concerne des opérations, donc les possibilités de passer d'un moment du processus à un autre moment de ce même processus de conception d'un projet d'architecture. Donc voilà, ça c'est le plan général du texte. Maintenant, on va un petit peu rentrer là-dedans. Et la conclusion sera essentiellement justement la mise en place d'un modèle graphique qui est composé des modélisations 1, 2 et 3. Alors, première partie donc, de l'exposé. Ici, vous avez une photo de Marcel Duchamp. Donc c'est un autoportrait, il est face à une série de glaces qui reflètent à l'infini son visage. C'est simplement pour illustrer une qualité que les architectes ont quand ils conçoivent un projet d'architecture, c'est-à-dire le fait de pouvoir être autoréflexif, de continuellement se remettre en question quand le projet avance. Vous allez voir que c'est un intérêt dans la première partie de l'exposé. Alors, si on parle maintenant de la question posée, donc la question centrale de la thèse, elle pourrait être écrite de cette manière-là. À l'aide d'une approche analytico-systémique, donc on a dit une complémentarité entre méthode analytique et pensée systémique, comment modéliser heuristiquement, c'est-à-dire comment représenter graphiquement de manière à pouvoir créer des connaissances sur le processus de conception, donc comment modéliser heuristiquement un processus de conception visant l'architecture pour permettre à un concepteur d'interroger de manière pertinente la relation entre, alors, trois choses, le système socioculturel, l'être auto-organisé et l'écosystème. Tout ça dans, au sein d'un réel augmenté. Alors, qu'est-ce que c'est le réel augmenté? C'est simplement le fait que un concepteur, face au réel, va observer le réel, les informations qu'il va en tirer vont passer par ses organes perceptifs, et donc la vision qu'il a ou la conception qu'il se fait du réel, elle est tronquée, elle est augmentée de quelque chose, elle est réduite aussi par rapport au réel. Donc on a bien une distinction entre réel et réel augmenté. La distinction entre système socioculturel, être auto-organisé, écosystème, elle vient d'une autre distinction faite au début du travail. C'est l'idée qu'il existerait trois espaces différents. Alors, un premier espace, donc l'espace de l'architecture, avec un accent aigu, simplement, c'est l'espace dans lequel se situent les édifices réels, les constructions, les bâtiments. Un espace 2, l'espace de l'architecture ER, là c'est l'espace du faire, c'est l'espace dans lequel l'architecte conçoit son projet pour élaborer des édifices dans l'espace 1. Enfin, on a un troisième espace, l'espace de l'architecture tout court, qui lui est un espace intersubjectif, donc ça veut dire qu'il est construit par les interactions entre plusieurs personnes. Et cet espace, c'est l'espace dans lequel le concepteur peut mobiliser des connaissances, s'alimenter en connaissances pour pouvoir concevoir dans l'espace 2 et finalement créer des édifices dans l'espace 1. Alors, ces trois espaces forment une trilogie, c'est-à-dire que si l'un des trois n'existe pas, les autres ne peuvent pas exister non plus. Donc ils sont liés, ils sont en interaction réciproque et ils doivent tous être ensemble pour pouvoir exister. Donc une fois qu'on a posé la question, on peut passer à la posture de recherche. Alors pour passer à la posture de recherche, il faut commencer par définir comment on peut élaborer des connaissances. Vous allez voir pourquoi après. Alors, pour élaborer des connaissances, de manière générale, il faut un objet à connaître, il faut un sujet, donc un sujet connaissant, et il faut un processus de cognition entre l'objet et le sujet pour produire finalement des connaissances. Alors, ces trois éléments de base-là, on peut ajouter un quatrième élément, qui est le regard critique. Donc, le recul qu'on prend par rapport à ce processus d'élaboration de connaissances. Voilà. Alors, par rapport à ce schéma de base-là, une série de postulats ont été définis. Il y a d'abord un postulat de base, dont on a déjà parlé, c'est l'existence du réel augmenté. Donc le fait que les informations du réel passent par les organes perceptifs du concepteur et que le concepteur, donc, conçoive dans un monde qui est augmenté. Ça, c'est un principe de base à partir duquel les quatre autres postulats peuvent être sortis. Alors, premier postulat, il répond à la question ontologique, c'est-à-dire la question de savoir quelle est la nature des objets à connaître? Alors pour ça, on part du principe ici qu'il existe trois niveaux d'organisation. Ces trois niveaux d'organisation du réel augmenté le sont à partir de trois structures fondamentales, l'ensemble, la structure et le système. On part du principe aussi qu'il existe trois flux fondamentaux, la matière, l'énergie et l'information. Ensuite, il y a un deuxième postulat qui concerne le sujet connaissant, donc la question gnoséologique, la question de savoir quelle est la nature de la pensée dans la tête du concepteur. Et là, le parti pris était de dire, voilà, le concepteur poursuit une métafinalité projective, celle de faire émerger des lieux. On a un troisième postulat qui répond à la question méthodologique. Donc, quelle méthode va être utilisée pour élaborer les connaissances? Et là, l'idée, c'est de proposer justement une méthode de pensée à la fois analytique et systémique. Et il y a un dernier postulat qui concerne le regard critique des choses. Donc, c'est la question, ça répond à la question éthique. Et donc là, c'est simplement l'idée de se dire, le concepteur, il est autoréflexif. Vous pensez à l'image de Marcel Duchamp, c'est vraiment ça. Et donc, il va être conscient lui-même de la manière dont il conçoit son projet. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, ce qu'on en fait, c'est que l'hypothèse, c'est de dire que concevoir un projet d'architecture, c'est quelque part élaborer des connaissances. Du coup, en reprécisant un petit peu le même schéma, vous voyez qu'on retrouve toujours donc, l'objet à connaître, le sujet connaissant, le processus de cognition et le regard critique. Donc les quatre éléments, ils sont toujours. Mais on ajoute ici une case supplémentaire, c'est la case des médias. Alors les médias, ce sont toutes les expressions et représentations externes produites par le concepteur architecte. Ça peut être ses gestes, la manière dont il parle, les plans qu'il établit, les actions qu'il mène, les maquettes, les coupes, les élévations, donc toutes les productions du concepteur, ce sont des représentations externes, et donc ce sont ici sur le schéma les médias. Alors pourquoi est-ce qu'on rajoute cette case? Simplement parce que si on voulait étudier le processus de conception à l'œuvre dans la tête d'un concepteur, on ne pourrait difficilement rentrer dans son psychisme. C'est totalement impossible. Par contre, se dire qu'on va observer les productions que ce concepteur crée au fur et à mesure du processus, ça c'est possible. Alors, l'autre différence par rapport au schéma précédent, c'est que dans le chef du sujet connaissant, on a mis deux cases, donc le modèle général et le modèle particulier. Alors, le modèle général, ça pourrait être le modèle théorique à partir duquel un concepteur peut élaborer un modèle particulier, donc particulier à un projet qu'il doit concevoir. Et donc, si vous regardez bien en dessous, vous avez donc, c'est l'idée d'une théorie générale pour modéliser, alors que là, c'est l'objet modélisé avec la théorie générale. Entre ces deux choses-là, on a une correspondance isomorphique, c'est-à-dire que la structure de l'un est conservée dans l'autre. Donc, concrètement, le nombre de relations et d'éléments que l'on peut trouver dans le modèle en général doit apparaître dans le modèle en particulier. Sinon, évidemment, le modèle général ne peut pas servir de support pour le modèle particulier. Il y a une autre correspondance importante, ici c'est l'homomorphisme entre les médias et les modèles particuliers. Là, dans ce cas-ci, ça veut simplement dire que dès qu'un observateur tente, à partir des représentations externes, de concevoir ou de comprendre un processus de conception, à tous les coups, il opère une réduction par rapport à la richesse du réel. Et donc du coup, ce n'est plus un isomorphisme, mais un homomorphisme, dans le sens où il y a moins d'éléments et moins de relations dans le modèle particulier qu'il y en avait dans le phénomène observé. Alors, si maintenant on essaie de clarifier encore un peu plus l'histoire, on arrive à ce schéma-là. Alors, d'un côté, vous retrouvez les états cognitifs réels du concepteur. Donc ça, c'est la succession des images mentales que l'architecte a dans sa tête. Donc il voit son projet se construire progressivement. Ici, vous avez les représentations externes qui sont ici et qui correspondent à différents états de pensée. Vous avez le modèle architectural théorique général qui est ici, et les modèles particuliers qui sont là. De nouveau, les correspondances isomorphiques entre modèle général et modèle particulier, et les correspondances homomorphiques entre les médias, donc les représentations externes, et les modèles particuliers. Donc concrètement, le concepteur, il a un modèle théorique général, une sorte de modèle qui pourrait être quasiment culturel. Il se base là-dessus pour viser les états cognitifs du projet, mais il n'y a pas accès directement, c'est non représentable, donc il vise les représentations externes, celles-là elles sont représentées, c'est de l'ordre du représenté, et puis grâce à ça, il élabore un modèle particulier, ça pourrait être, c'est un projet d'architecture, en fonction de ce qu'il pense. Alors tout ça, c'est aussi en même temps un appareil à systémographier, donc ça c'est un dispositif élaboré par un systémicien célèbre, qui est Jean-Louis Lemoigne, et donc c'est aussi de là que l'on parle. On arrive à la deuxième partie de l'exposé. Alors cette fois-ci, c'est une illustration, c'est un escalier donc, au Vatican, à la fin de la visite, pour ceux qui ont été. Il y a un grand escalier, très très long, comme ça, qui demande beaucoup d'efforts, parce qu'on a déjà eu plusieurs heures de visite. Et ça illustre parfaitement la situation de l'architecte qui se retrouve en train de concevoir son projet et qui ne va pas se contenter d'avoir une succession de phases qu'il va faire les unes après les autres pour mener une solution. En général, c'est plutôt un processus qui se fait par boucles et par itérations successives. Et ces boucles, ces itérations semblent converger vers une solution. Et donc c'est un petit peu le mouvement de cet escalier. Alors, l'historique critique des théories de la conception, je ne vais évidemment pas vous faire tout l'historique critique de toutes les théories de la conception depuis les années 60, donc je vous montre simplement un moment important selon moi de tous ces modèles, ce sont les caricatures de Christopher Jones que certains ont déjà vues. Pourquoi ? Parce qu'elles symbolisent trois manières de voir le concepteur architecte. Alors la première manière de voir le concepteur, c'est de le considérer comme un magicien. Ça, sa caricature essentiellement ce qu'on pourrait appeler les artistes. Vous voyez que le concepteur ici reçoit des informations, mais ces informations sont sous la forme d'un étonnement. Tout d'un coup, il est face à une situation intéressante, ça l'étonne. Vous voyez qu'il réfléchit dans son cerveau. Son cerveau, c'est une pelote de laine emmêlée, donc on n'arrive pas à défaire les fils. Impossible de comprendre ce qui se passe là-dedans. Et puis tout d'un coup, Eureka, il a l'idée. La seule idée, la véritable idée, la fabuleuse idée du projet, le projet. Ça symbolise donc, c'est ce qu'on appelle la boîte noire. Et donc ça symbolise vraiment les artistes qui pensent qu'on peut étudier à la fois les informations qu'on reçoit, les informations qu'on donne, mais sûrement pas ce qui se passe dans la tête du concepteur. La deuxième caricature, c'est celle du concepteur ordinateur. Alors là, vous voyez que tout de suite son visage est beaucoup plus régulier, il y a des angles, c'est assez aride. Là, dans ce cas-ci, toutes les données du projet sont reliées sur une série de fiches bien organisées. Les informations sont exhaustives, on les a toutes. Elles arrivent dans le cerveau du concepteur, et là, c'est magique. Il y a une succession de boucles itératives avec des séquences d'analyse, de synthèse, d'évaluation. Et au bout d'une série de ces itérations, le concepteur propose une solution optimale. Ça veut dire qu'il pourrait y en avoir d'autres, mais lui, il estime que c'est la meilleure parmi d'autres solutions possibles. Alors là, dans ce cas-là, il caricaturait plutôt les ingénieurs, ce qu'on pourrait appeler des ingénieurs. Là, c'est la boîte de verre, comme on appelle ça, où on imagine que tout ce qui se passe dans la tête de la personne peut être expliqué, modélisé mathématiquement. Alors il y a un troisième dessin, et c'est celui-là qui m'intéresse, c'est dans ce cadre-là que mes recherches évidemment s'inscrivent, c'est l'être, enfin le concepteur en tant que système auto-organisé. Dans ce cas-là, le concepteur non seulement conçoit son projet, mais en plus il a conscience qu'il est en train de concevoir son projet, ce qui lui permet une mise en abîme, et ce qui lui permet de réorienter son projet en fonction de son regard critique, de son auto-référentiel. Et là dans ce cas-là, c'est un petit peu comme si on avait une boîte de verre dans une boîte noire. Donc voilà. Alors maintenant on va passer à la première des trois modélisations qui constitue le modèle général. Alors ici vous avez un petit schéma particulier, donc simplifié. On va d'abord s'intéresser à ce qui est en bleu, donc l'hélicoïdal qui est ici. Et donc c'est le modèle du processus en général, sur toute la durée. Alors comment est-ce qu'on arrive à ce modèle ? Le point de départ, c'est de se dire, bon, ben, si on a un point de vue analytique, on peut considérer un projet d'architecture comme une succession de phases qui vont venir les unes après les autres, de manière tout à fait linéaire, et on finira bien par arriver à une solution. Et donc, par exemple, dans ce cas-ci, on aurait phase 1, phase 2, phase 3, programmation, modélisation, évaluation. Si par contre, on a un point de vue systémique, on ne va plus parler de phase, on va parler de polarité ou de pôle, et on va se dire, bon, ben, ces différentes phases, elles sont en interaction dynamique, les unes avec les autres, elles sont reliées par des boucles de rétroaction, et l'une ne va pas sans l'autre, et le concepteur va se promener de l'une à l'autre en fonction de l'avancement de son projet. L'idée ici, ce n'était pas de dire l'analytique c'est bien, le systémique c'est bien, c'était plutôt de proposer une complémentarité. Et ça se traduit par le schéma qui est ici en dessous. Donc, d'un côté, il y a les données, de l'autre côté, il y a la phase de chantier, et au milieu, il y a le processus de conception. Alors, vous voyez ici un premier module contextualisation. Donc lui, il s'intéresse plutôt au contexte du projet, alors que les trois modules qui sont ici s'intéressent plutôt au projet lui-même, compris dans son contexte. Donc je vous rappelle, système observé, observateur du contexte du système. Alors, ce petit schéma de départ, il a fallu trouver une manière de le représenter efficace. Et le choix s'est porté sur un hélicoïde, ici, c'est ce que vous voyez, un hélicoïde tournant autour d'une ligne du temps. Ce qui nous amène au premier modèle de la conception. Donc ce modèle, vous connaissez ici une ligne du temps, donc au cours du temps, le projet va se développer. Vous reconnaissez l'hélicoïde ici. Cet hélicoïde, en fait, il représente la succession des images mentales du projet d'architecture dans la tête du concepteur. Vous avez aussi deux domaines, un domaine de données et un domaine de solutions. Ce sont les enveloppes ici, il y en a une là, il y en a une ici. Alors le domaine des données, ça représente l'ensemble des données que le concepteur prend en compte à chaque instant du projet. Vous voyez qu'il n'est pas constant, il y a des moments où il y a plus de données prises en compte et des moments où il y en a moins. De la même manière, le domaine des solutions, c'est le domaine, l'espace dans lequel se trouvent toutes les solutions possibles du projet à ce moment-là. Alors vous avez une série de flèches ici qui montrent le côté justement réflexif du concepteur, donc c'est la vision extérieure du processus. Ça exprime le fait que le concepteur, à différents moments, peut réorienter le processus. Vous avez sur le côté une succession de TMD, donc ce sont les représentations externes, les fameux médias dont on parlait tout à l'heure. Et donc vous voyez qu'à différentes étapes importantes du projet, le concepteur produit un dessin, une maquette, un discours, quelque chose. Alors il y a aussi deux points importants sur l'hélicoïde. Il y a un point zéro qui est en fait la préconception, donc c'est l'idée que dans un projet d'architecture, on ne part jamais de rien. Il y a toujours une idée, on a toujours un autoréférentiel au départ, on ne part pas de rien. L'autre point important, c'est ce que j'appelle ici le point critique de pertinence, c'est l'intersection entre l'hélicoïde et le domaine des solutions. Pourquoi c'est important? Parce que dès qu'il y a cette intersection, à ce moment-là, il y a une solution possible qui répond aux critères que le concepteur s'est donné. Alors ça ne veut pas dire que le concepteur, du coup, doit s'arrêter. Il peut très bien, comme c'est le cas ici, continuer à concevoir son projet pour améliorer son projet. Mais en tout cas, à partir de ce moment-ci, il y a une solution qui est possible. Il y a un projet d'architecture qui est possible. Donc ça, c'est la première partie de la modélisation. Alors, quelques slides pour aider encore un peu à la compréhension. Vous voyez ici, donc l'hélicoïde, le domaine de données, le domaine de solutions. Ceci, ce sont tous des cas particuliers dans lesquels les trois donc, sont associés. Là, par exemple, c'est simplement pour vous expliquer que le domaine de données ou le domaine de solutions, c'est quelque chose qui est construit par le concepteur. Ça n'a pas d'existence en soi, c'est vraiment construit dans la tête du concepteur. Voilà. Alors, un autre slide peut-être pour aider encore. Si on prend les domaines de données ou de solutions, donc on l'a dit, soit ils sont convergents, soit ils sont constants, soit ils sont divergents. Il y a des moments où, en cours de processus, c'est valable aussi pour l'hélicoïde, il y a des moments où le concepteur converge vers l'ensemble des solutions, il y a des moments où, au contraire, il se trompe complètement et il diverge. Alors, il y a des moments aussi où il est constant, c'est-à-dire que le concepteur, il travaille, il bûche, mais son projet n'avance pas, il ne change pas. Il y a encore des moments de latence aussi, il y a des moments où le concepteur s'arrête, il prend un autre projet en cours, ou il va faire autre chose, il revient, et pendant ce temps-là, le projet est resté en lui, mais il est resté à un état particulier. Alors, il y a des moments où le concepteur progresse. Donc, le projet va tellement bien, il est tellement confiant que finalement, il passe les étapes qu'il était censé faire et il va directement vers une solution. Il y a des régressions, il y a des moments où son projet lui apparaît comme étant totalement foireux et donc il décide de revenir une étape avant parce que c'était mieux avant. Il y a aussi des décalages, donc des moments où il se rend compte que le processus amorcé ne va pas le satisfaire ou ne mène pas à des solutions pertinentes et du coup il décide d'amorcer un autre processus. Encore un dernier slide pour cette modélisation-là, simplement pour dire qu'à notre époque, un concepteur qui travaille seul, c'est devenu quasiment inexistant. En général, c'est une équipe de concepteurs. Et donc, il faut bien se dire qu'on pourrait modéliser dans chaque tête de chacun des membres de l'équipe un hélicoïde différent. Donc, vous vous rendez compte de la complexité du modèle qui pourrait en sortir. Il y a des moments d'ailleurs où ces hélicoïdes peuvent se rejoindre parce que les différents membres de l'équipe sont d'accord, il y a des moments où ils peuvent se séparer, donc c'est... voilà. Alors on passe à la deuxième modélisation, donc on avait défini ici l'hélicoïde dans la première. Là maintenant on va s'intéresser à la boucle qui est là et qui est la boucle qui oriente le processus de conception. Donc c'est le modèle du concepteur cette fois-ci. Alors, ce modèle, c'est au départ une boucle cognitive. Alors, je dis bien cognitive et pas architecturale parce que ce modèle-là pourrait très bien être utilisé pour représenter la conception d'autre chose que de l'architecture. Alors, cette boucle cognitive, elle est construite avec cinq opérations. La première opération, donc, c'est l'opération de questionnement. Ça, c'est quand le concepteur reçoit des données pour son projet, commence à problématiser un petit peu les données, de les classer, etc. Il se questionne, il les questionne. Puis après, on a une opération de positionnement. Donc ça, c'est quand le concepteur situe ses données dans l'espace, dans le temps et dans les différentes dimensions contextuelles. Ensuite, on a une opération de référence ou d'autoréférence. Là, le concepteur commence à synthétiser les données qu'il a problématisées et qui ont été positionnées. C'est aussi à ce moment-là qu'il opère une synthèse et qu'il propose des stratégies pour pouvoir actualiser son projet d'architecture. On a ensuite une opération d'évaluation, où là, il va simplement évaluer les modifications qu'il propose lorsqu'il joue avec son autoréférentiel. Et si l'évaluation est positive, il y a une cinquième étape, qui est l'évolution, plutôt, du modèle architectural. Alors ces cinq opérations cognitives, évidemment, elles sont représentées en une boucle principale, ça c'est plutôt le côté analytique de la modélisation, mais vous voyez qu'il y a aussi une série de flèches grises qui forment toutes des boucles de rétroaction à l'intérieur, ça c'est plutôt le côté systémique de la modélisation, et c'est l'idée que quel que soit l'étape ou le moment dans lequel le concepteur se situe, eh bien il peut aller de l'une à l'autre des opérations de manière tout à fait aléatoire en fonction des besoins. Alors on passe à la troisième partie de l'exposé. Alors ça c'est une gravure d'un zoétrope, donc c'était avant l'invention du cinéma, c'était des cylindres dans lesquels on avait fait des fentes tout autour, il y avait des maquettes à l'intérieur, par exemple dans ce cas-ci d'un goéland à plusieurs étapes du vol. Et l'idée, c'est que quand on faisait tourner ce cylindre en regardant par les petites fentes, on pouvait reconstituer le mouvement, par exemple ici, d'un goéland. Alors ça a un intérêt ici, parce que ça illustre la modélisation qui suit, dans laquelle on fonctionne à partir d'une série de questionnements du projet ou du modèle architectural, et que en allant de l'un des questionnements à l'autre, finalement, on finit par reconstruire le mouvement, la dynamique du projet dans son ensemble. On passe donc à la troisième modélisation. Cette modélisation, ce n'est plus le modèle du processus de conception en général, mais cette fois-ci, c'est en particulier. Donc, on n'est plus sur toute la durée du temps du projet, on est sur un point infinitésimal de cet hélicoïde. Donc, c'est comme si on modélisait une image mentale du projet dans la tête du concepteur. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à tout ça ? Donc, au départ, il y a eu la définition d'une série de questionnements des modèles architecturaux. Ces questionnements, ils sont répartis. Donc, il y a d'un côté des questionnements contextuels, donc qui s'attachent de nouveau au contexte dans lequel se situe le projet d'architecture. Et puis, il y a des questionnements qui s'intéressent plutôt au projet d'architecture lui-même, plongé dans son contexte. Alors, du point de vue du contexte, c'est assez simple. C'est tout ce qui concerne l'espace, le temps et les dimensions contextuelles. Du point de vue de l'objet architectural lui-même, les différents questionnements sont répartis selon qu'on considère ce modèle architectural à l'aide d'ensembles, de structures ou de systèmes. Alors, je ne vais pas les détailler, ça, ils sont détaillés dans le texte, chacun les uns après les autres, donc il y a des choses à lire. Mais, en tout cas, à partir de ces questionnements des modèles architecturaux, j'ai pu justement développer la troisième modélisation, qui est celle-ci. Donc là, vous reconnaissez le petit schéma qui était là tout à l'heure, avec les données d'un côté, chantier de l'autre, le processus de conception entre les deux, avec les quatre modules, le contexte et le modèle architectural. Eh bien, à partir de ces quatre modules, sont répartis justement les fameux questionnements qui sont ici. Donc, vous voyez les contextuels qui sont là, arrivent là, et les autres se répartissent dans ces trois modules-là. Et donc, pour modéliser cet instant particulier, précis, du processus de conception, il est possible de questionner le modèle architectural à partir de chacun de ces questionnements. En additionnant, ou plutôt en combinant tous ces questionnements, il est possible alors de recréer le projet en son ensemble. Alors vous allez me dire, oui, ok, mais c'est dynamique quand même un projet. Il y a un passage quand on est... Quand on dit qu'on modélise une image mentale du projet, ben, des images mentales, il y en a toute une série. Alors comment est-ce que le concepteur peut passer de l'une à l'autre? Ça, c'est l'objet, justement, des opérations. Alors si on reprend les fameux questionnements des modèles architecturaux que je vous ai montrés juste avant, ont été définis aussi des opérations. Alors, il y a une opération principale, c'est pas compliqué, c'est l'opération de conception. Et puis, il y a une série d'opérations, de sous-opérations, qui sont les opérations de contextualisation, de composition, de construction et de régulation. Elles sont associées chaque fois au questionnement précédent. Il y a aussi la définition de quatre opérantes. On a le contexte, donc le contexte du projet, et puis on a trois manières différentes de représenter le projet lui-même, à l'aide d'un modèle agrégatif, d'un modèle statique ou d'un modèle dynamique. Enfin, on a des changements qui adviennent parce qu'on a utilisé des opérations sur les opérantes. Des changements, sans surprise, c'est recontextualisation, recomposition, reconstruction ou redistribution. Alors tout ça peut se synthétiser à l'aide d'une formule mathématique. Alors j'insiste, cette formule, c'est simplement pour s'aider à comprendre les choses. Ça ne veut pas dire pour autant que je pense ou je crois que tout est... Tout peut être décrit à l'aide d'une formule mathématique et puis qu'on a fini. D'accord ? C'est simplement pour aider à visualiser en une formule tout ce qui précède. Si on la prend, on a l'opération de conception, ici, donc c'est l'opération générale, appliquée sur un modèle architectural, donc l'image mentale du projet d'architecture. Elle est égale à la combinaison linéaire pondérée, c'est-à-dire les petits A, les petits B, les petits C, les petits D, donc c'est la pondération qui est variable, des quatre sous-opérations, donc vous les voyez ici, appliquées l'une sur le contexte, donc contextualisation, la composition sur le modèle architectural, la construction et la régulation. Et la combinaison linéaire de ces sous-opérations mène alors à un changement, une actualisation du projet d'architecture d'un point à l'autre de l'hélicoïde. Alors voilà, on va conclure. Donc la conclusion du texte, de la thèse, elle est essentiellement graphique. Elle est absolument impossible à présenter telle quelle sur un slide. Moi j'ai tout mis ensemble, j'ai un A0 avec l'ensemble des relations, des schémas, etc. Donc on pourra en reparler plus tard. Alors, elle est essentiellement graphique, elle présente le modèle théorique général, et elle est essentiellement constituée de trois modélisations que je vous ai présentées. Donc ça, c'était le petit schéma synthétique. Vous voyez qu'après, ça donne autre chose. Et donc, les trois modélisations, c'est bien celle du processus de conception en général, que vous avez vu au début, celle du concepteur, donc la deuxième, et celle du processus de conception, cette fois-ci en particulier. Donc ça, ce sont les trois grandes parties du modèle. Alors, au-delà de ça, il y a une table d'orientation pédagogique tirée des questionnements architecturaux qui a déjà été élaborée aussi. Et donc ça, je vous montre juste une petite illustration. Donc c'est un outil qui peut être utilisé pour aider les étudiants, notamment à l'atelier, notamment quand ils sont bloqués dans leur projet. Quand ils sont bloqués dans leur projet, on essaie, enfin, en tout cas j'essaie, de leur faire prendre de la distance et de questionner leur projet par l'un ou l'autre de ces questionnements. Alors il y a une série de perspectives de recherche donc, qui sont ouvertes à partir du modèle ici. Il y a d'abord la possibilité de créer des outils pédagogiques pour démystifier le processus de conception, donc d'autres outils que la table d'orientation. Il y a la possibilité de mener des recherches empiriques à partir d'études d'échantillonnage, de projets. Donc pour l'instant, en architecture, on a beaucoup trop peu d'études factuelles. Par exemple, de dire, tiens, si on a un groupe d'étudiants qui se penche sur le même projet, on a donc, mettons, 30 processus en parallèle, quelles sont les constances, est-ce qu'on peut remarquer sur leur manière de concevoir, etc., quelles sont les correspondances ou pas, et de la même manière, on pourrait dire que si on a une personne qui conçoit 30 projets différents, mais quels seraient les rapprochements qu'on pourrait faire. Donc il nous faudrait des données quantitatives et qualitatives là-dessus. Trois, il y a la possibilité d'avoir des développements en théorie d'architecture. Donc, par exemple, définir d'autres opérations, d'autres opérateurs, des opérantes, donc de réfléchir là-dessus. Des questionnements aussi. Il y aurait la possibilité de développer des choses en psychologie cognitive, donc de reprendre le deuxième modèle, celui de la boucle cognitive, et d'aller voir un petit peu ce qui se passe chez les psychologues et d'essayer de voir si on peut pas avoir des effets là-dessus, et notamment éventuellement étudier quelques opérations cognitives, des heuristiques ou des algorithmes. Enfin, on pourrait compléter le modèle théorique en allant par exemple jusqu'au chantier, ou en ajoutant d'autres types d'acteurs. Par exemple, je ne sais pas moi, le maître d'ouvrage, d'autres personnes. Enfin, donc il y a encore moyen évidemment d'aller beaucoup plus loin là-dedans. Et voilà, ça conclut la présentation. Merci beaucoup.